sont peu nombreux. Ce qui n'empêche pas le Seigneur de parler. L'assemblée de la Vosges est petite. Ça n'empêche pas le Seigneur de faire une œuvre, d'appeler au salut et d'accompagner par le Saint-Esprit toute personne désireuse de le suivre. J'ai un certain âge, vous savez bien, il y a eu beaucoup de choses. Et Dieu n'abandonne pas les siens. Alors ce matin, nous allons nous entretenir d'un sujet particulier. Je dirais quelques passages de la Bible. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ensuite, 2 Corinthiens 13, verset 9. Ce que nous demandons dans notre prière, c'est votre perfectionnement. Éphésiens 4, verset 2. Qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient, je ne le suis pas, pour bien fixer les choses, en particulier dans vos rapports mutuels, portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Et puis Éphésiens 4, verset 12, lorsqu'il est parlé des dons, il a donné des uns comme prophètes, des autres comme évangélistes, des autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Alors, nous allons nous entretenir des tensions et des conflits. Je ne vais pas m'étendre sur les tensions et les conflits parce qu'on en a tous, plus ou moins, à des degrés divers. Mais l'essentiel, c'est de comprendre certaines choses, pourquoi ça intervient, et surtout, quelles sont les pistes pour s'en sortir. Les tensions naissent de nos différences. À la source des tensions, il y a toujours des sentiments, et les sentiments sont les fenêtres de nos besoins. Besoin d'être aimé. Besoin de compter pour quelque chose. Besoin d'être reconnu, besoin d'être estimé. Et là, on touche à quelque chose de très personnel. Mais tensions et conflits sont inévitables parce que la communauté, dans le couple, comme dans la famille, comme dans l'assemblée, la communauté n'est pas un lieu d'uniformité où tous pensent la même chose et font la même chose. Tensions et conflits sont simplement l'expression de notre statut d'être humain, fait pour des relations et où les uns s'ajustent aux autres, d'une manière plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. Alors c'est vrai que la tension est vécue comme une épine. Il y a plusieurs manières de s'en sortir. On peut refouler, mais refouler entretient ce qui est négatif. Et la Bible n'approuve jamais le refus de la réalité. Ensuite, on peut dire, en citant allègrement 1 Corinthiens chapitre 13, que quand on aime, il n'y a pas de tension. Parce que l'amour croit tout, supporte tout, excuse tout. Alors ça, c'est ignorer ou éviter les situations de tension. Et on aboutit à une simple cohabitation. En évitant de se frotter. Alors il ne faut pas en rester là, mais essayer d'aller plus loin. Alors qu'est-ce qui peut être source de tension? J'en citerai deux. La première que j'observe quelquefois dans les églises, Dietrich Bonhoeffer, qui était un grand théologien protestant exécuté par les Allemands en 1945, Dietrich Bonhoeffer déclare qu'il nous faut renoncer à l'idéal communautaire provoquée par la confusion entre fraternité chrétienne et un rêve de communauté pieuse, parce qu'on est parfois à la recherche d'expériences inédites qu'on pense trouver dans l'Église parce qu'on ne le trouve pas ailleurs. Mais Dieu ne nous permet pas, ne serait-ce qu'un instant, de vivre dans l'Église de nos rêves, parce que ce type de rêve nous fait exiger l'impossible de Dieu et des autres. Il y a des luttes d'influence, des tensions, et pour certains, le désir de dominer. Il n'y a qu'à lire le début de l'épître, le chapitre 2 de l'épître aux Philippiens, on voit bien que là, il y avait des influences, des tensions, des désirs de dominer. Le rêve de communauté pieuse et parfaite est une convoitise et non pas un service à la gloire de Dieu. La fraternité chrétienne n'est pas de l'ordre du psychique, du rêve, c'est une réalité spirituelle en Christ, elle existe. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, qui est le verset préféré de Méno Simon, il est écrit « Nul ne peut poser un autre fondement, à savoir celui de Jésus-Christ ». Et en paraphrasant, on peut dire « Mais nul ne peut poser une autre communauté, celle de ses rêves ». C'est vrai que c'est difficile parce qu'à la base, il y a toujours des sentiments et des frustrations. Puis une autre source de tension, c'est la peur, et c'est la plus importante. Lorsque Dieu appela Adam après qu'il eut mangé du fruit défendu, Adam répond « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché ». Et la peur, c'est l'héritage laissé par Adam à ses enfants. Et depuis Adam, la peur est l'énergie émotionnelle dominante de la personne. Nous avons tous des peurs. Mais pourquoi Adam avait peur? Tout simplement parce qu'il se savait inacceptable aux yeux de Dieu et qu'il risque le rejet. La réponse d'Adam est aussi la nôtre. Nous savons que nous ne sommes pas ce que nous devrions être et nous redoutons d'être mis à nu et rejetés. Alors à cela, on oppose une stratégie. Adam se bricole un vêtement de feuilles pour faire croire que rien ne s'est passé et que tout continue comme avant. Un masque, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'un masque ? On peut définir le masque par tout ce que nous faisons ou ne faisons pas pour éviter d'être mis à nu. Souvent, ne pas parler est un masque, un système défensif destiné à éviter la confrontation. J'ai remarqué parfois que dans une étude biblique, certaines personnes ne donneront jamais leur avis par crainte d'être ridiculisées et rejetées. Et que se passe-t-il lorsque des chrétiens masqués se rencontrent? Ils éprouvent une communion de masque à masque, c'est comme si on s'embrasse à travers un épais double vitrage. C'est là que nous devenons gardiens de la paix et non plus artisans de paix. Ce qui en résulte, ce n'est pas une paix, c'est un silence. Silence où les remarques et les reproches éventuels qui s'imposent dans une situation donnée ne peuvent plus se dire. Et combien de fois mon silence n'a pas contribué à l'édification de l'autre, mais bien plutôt à sa perte. C'est que le prix de la sécurité est élevé, n'est-ce pas? Alors établir des relations à partir d'une attitude de défense conduit à une communauté de surface, c'est-à-dire un ensemble de relations humaines, mais dépourvues de vrais contacts humains. Aujourd'hui il pleut, demain il neige, après-demain il y aura du soleil. Contacts humains, relations personnelles, humaines, qui nous sont pourtant nécessaires. Alors d'emblée, il faut dire que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour ses enfants. Était-ce le cas à Éphèse et à Corinthe? Des chrétiens se trouvant inacceptables eu égard à leur vie passée, car pas tout à fait délivrés, et qui portent des masques. Est-ce que l'apôtre Paul s'en était rendu compte? Parce qu'il écrit dans Éphésiens 4, verset 25, « C'est pourquoi renoncez aux mensonges, rejetez tout faux semblant, en d'autres termes, rejetez les masques, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » C'est-à-dire être vrai, être authentique. Mais comment faire? Alors j'ai une première piste. Pour remédier à la fraternité masquée, il faut trouver une solution à la peur du rejet. La peur que le désir d'être considéré comme quelqu'un qu'on aime, qu'on estime, ne se réalise jamais. Et pourtant, il faut oser parler vrai, communiquer, partager, mais d'une certaine manière, parce qu'il y a des dérives. Par exemple, le mot « partage » est devenu un mot extrêmement courant. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais dans les églises, oui. Plus courant que « seigneurie, sainteté, obéissance ». Et on dit qu'il faut s'exprimer, puisque les valeurs nouvelles tournent autour de la franchise, de l'authenticité, de la transparence. Et ceci comporte un risque. Le risque de dire et de s'exprimer avec une franchise totale, sans se soucier du bien des autres. Et cela ne conduit pas à l'unité, mais à la division et à la rupture. Et on aura de plus en plus de mal à s'engager dans une attitude contraire à nos impulsions. Là, il y a le danger. L'attitude contraire, c'est la retenue. Sans parler de la colère qui peut sourdre avec la rancune un désir de vengeance, c'est-à-dire permettre au sentiment de nous dominer. Alors la formule « oser parler vrai », il faut préférer aimer pour parler vrai. Parce que Jésus dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire ?» Mais aimer celui ou celle qui n'est pas aimable du tout fait appel à d'autres dispositions. Il faut de la confiance. Mais comment réaliser la confiance? Voyez-vous, au lieu d'exprimer ce que je ressens, au lieu de laisser libre cours aux sentiments qui peuvent être agressifs, il faut trouver des mots qui vont sous les masques des autres et apaisent leur peur. Et il y a un exemple dans la Bible, c'est la rencontre de Joseph avec ses frères. Et en lisant ce texte, on voit bien que Joseph a su trouver les mots qui ont désarmé les peurs de ses frères. Dans Éphésiens 4, verset 29, l'apôtre Paul écrit « Cherchez les mots qui encouragent, que chacune de vos paroles contribue au progrès des autres. » Et pour trouver ces mots, il faut de la sagesse. Alors la sagesse, selon Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 17, la sagesse est premièrement pure, sans mélange, sans autres influences. Ensuite, elle est pacifique, conciliante, modérée, exempte de duplicité et sans hypocrisie. Cette sagesse, je peux vous dire, je la demande régulièrement. Il faut la demander, parce que Dieu donne. Alors, être artisan de paix dans ces situations de tension latente, c'est relever le défi de rester en relation avec l'autre, comme Dieu est resté en relation avec Caïn, malgré ce qu'il a fait. Paul affirme dans Éphésiens 4, verset 15, « En disant la vérité avec amour, nous croîtrons avec lui à tous égards. » Alors le mot « amour », je n'aime plus trop le dire parce qu'il est tellement galvaudé. Mais quand même, parler vrai avec affection est mis sur le même plan que grandir en maturité. Parler vrai avec affection est mis sur le même plan que grandir en maturité. Alors il y a Matthieu chapitre 18 qui est le chapitre où Jésus parle de l'Église et de la discipline d'Église, il est écrit, là où deux ou trois sont assemblés, je serai au milieu d'eux. Maintenant, quand même, on l'utilise à tout va, je serai au milieu d'eux. Mais on est dans le chapitre 18 de la discipline d'Église, et donc il faut bien interpréter là où deux ou trois se rassemblent et reconnaissent la relation distendue, communiquent, partagent, se parlent en tombant les masques, et il y a une bénédiction particulière. Pour ce moment-là, je serai au milieu d'eux. Et quand Jésus est au milieu des enfants de Dieu, il se passe beaucoup de choses. Écoute, tact, compréhension, affection, confiance, même si ce sont des mots usés jusqu'à la corde, voilà tout de même ce qui peut mener vers une relation authentique, du moins une relation où la peur de perdre ce dont on a besoin, être aimé, être estimé, compter pour quelque chose, cette peur-là n'aura pas le dernier mot. On ne rêvera plus de l'Église idéale parce qu'on y sera. Ce sera le lieu où le reproche aimant et affectueux est une grâce qui permet de progresser. Permettons aussi à l'Esprit Saint de prendre toute la place dans le cœur, qu'il règne et qu'il contrôle les pensées et les pulsions des sentiments. Ça veut dire quelle théorie ? Comment faire? Je vous le dis par expérience, Christian sait quelque chose. Mes amis, c'est une question de foi. Croyez-le. Croyez que l'Esprit est à l'œuvre dans les domaines beaucoup plus sensibles des tensions. Croyez-le qu'il est à l'œuvre et louez-le pour cela tous les jours. Faites l'expérience pendant 2 semaines. Vous verrez la différence. L'organe de la pensée est un immense champ de bataille favori de l'adversaire. Il faut être gardé et demander la protection du Seigneur tous les jours. Dans Philippiens, il est bien écrit que la paix de Dieu sait garder le cœur, c'est-à-dire les sentiments et les pensées, le champ de bataille en Jésus-Christ. C'est lui le maître. Puis une deuxième piste pour se sortir des conflits et des tensions. C'est la communion réparée des frères et sœurs. La communion réparée. Paul exhorte les croyants à tenir tous un même langage, à être parfaitement unis. 1 Corinthiens 1, 10, on l'a vu. Alors l'expression « parfaitement unis » provient du même mot grec que l'expression « perfectionnement des saints de Éphésiens 4, verset 12. Et être parfaitement uni et perfection se rapporte à l'action d'articuler correctement entre eux des membres disjoints. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Ce mot grec, c'est katartizo. Il est utilisé dans la réduction des luxations. Et là, on a l'influence de Luc le médecin auprès de l'apôtre Paul. Lorsqu'il y a des catastrophes, des situations difficiles, on accorde aux personnes ou aux jeunes une aide psychologique qu'on appelle une catharsis. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais dans le mot grec catharthizo, il y a la racine artios. Rendre quelque chose artios signifie rendre capable ou utile, ou encore mettre une chose en état de remplir la fonction pour laquelle elle a été faite, ou encore rendre quelqu'un comme il devrait être. Alors on trouve la racine artios dans Matthieu 14, verset 21, où les fils de Zébédée réparaient les filets. Ils les remettaient en état de servir. Des filets déchirés ne servent à rien. On trouve encore cette racine artios dans Galates 6, verset 1. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, allez, attention, la Bible dit redressez-le. Mais le vrai mot à utiliser, c'est réparer-le. C'est-à-dire réparer l'articulation de ce membre avec tous les autres membres. Dans 2 Corinthiens 13, verset 9, Paul prie, ce que nous demandons, c'est votre perfectionnement. Mais quand on lit ce chapitre 13 de 2 Corinthiens, on s'aperçoit quand même que l'apôtre Paul a un langage très musclé. Alors, Paul prie en réalité pour le rétablissement catharpiso des saints, réparer les relations. Et enfin, en Hébreux 13, verset 21, il est écrit « Que le Dieu de paix vous rende capable ou vous mette en état, catharpiso, de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. » Alors dans l'Écriture, ce qui est agréable à Dieu est toujours mis en lien avec rendre Dieu propice pour la bénédiction. Dans Proverbe 16, verset 7, il est écrit, je le sais par cœur parce que je le prie, « Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, les voies, les œuvres, sa mission, ce qu'il fait, il est dit, il met favorablement à son égard même ses ennemis. » Une autre traduction dit, « Il lui réconcilie même ses ennemis. » Lorsque la voix d'un homme ou sa mission ou d'une femme est agréable à Dieu. Alors, parfaitement uni ou perfectionnement, ce n'est pas un état acquis. Ce n'est pas non plus une étape atteinte qui ferait de chacun de nous un chrétien haut de gamme, une aristocratie chrétienne. Mais c'est être en chemin. C'est un accompagnement, c'est faire œuvre de paix. Nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Christ est en nous, mais comment le vivons-nous? Quelles sont les choses qui accrochent encore? Et quand je dis les choses qui accrochent, par ces temps humides, certains peuvent avoir de l'arthrose. Et l'arthrose, c'est parfois des petits picots pointus qui poussent sur les os, et quand on déplace les pots, ça fait « Aïe !» Qu'est-ce qui accroche encore? Et puis, il y a une troisième piste. Mettre en œuvre exclusivement la première piste, développer la confiance, trouver les mots, avoir la sagesse, c'est certainement ce qui va dans le sens du bien, mais qui peut faire appel à nos dispositions naturelles, voire même une certaine technique. Et on ne finira par ne plus prier, trop sûr de soi, et on risquera d'agir en dehors de Christ, du moins en dehors de ce que Christ a prévu entre nous et dans son Église. La deuxième piste, réparer les articulations relationnelles, nécessite qu'on soit animé d'une affection, d'un amour vrai, pour remettre les défenses de chacun en question. Parce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, rivaliser d'affection, rivaliser d'estime réciproque. Affection et estime, ça va de pair. En d'autres termes, mes amis, soyez créatifs, inventez, trouvez toujours quelque chose de nouveau. C'est comme dans l'émission à la télévision Masterchef, je ne sais pas s'il y en a qui regardent ça, mais chacun concocte son assiette avec du goût, avec un dressage particulier, du moins il fait du mieux qu'il peut pour donner envie et emporter l'adhésion des autres et du chef. Alors cette troisième piste, mes amis, c'est l'intercession. Parce qu'une communauté vit de l'intercession de ses membres, hormis quoi elle meurt. Dietrich Bonhoeffer dit qu'intercéder, c'est l'acte par lequel nous présentons à Dieu le frère, la sœur qui a besoin de sa grâce. Sa situation, ses peurs, ses propres tensions, ses propres situations me pèsent comme s'ils étaient miens. L'ancien président des États-Unis, Abraham Lincoln, dit « Malheureux l'homme qui ne sent plus le fouet quand c'est le dos d'un autre qui est frappé. » Malheureux l'homme qui ne sent plus le fouet quand c'est le dos d'un autre qui est frappé. Intercéder pour quelqu'un, c'est le mettre au bénéfice du même droit que moi j'ai reçu, que nous avons tous reçu, celui de nous présenter devant le trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Intercéder, c'est un service par excellence dans une église. Alors il n'y a pas d'antipathie, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de désaccord. Pour autant que cela dépende de moi ou de vous tous, dont nous ne puissions pas triompher. C'est le bain de l'humilité et de la purification où nous devons nous plonger tous les jours. Peut-être que certains connaissent le théorème d'Archimède.
Tout corps plongé
dans l'eau déplace un volume égal à son poids. Mais je vais paraphraser ce théorème en disant tout chrétien plongé dans l'humilité en ressort plus souple, plus compréhensif. Et quand on découvre les fondations de l'humilité, on ne tardera pas à voir l'édifice d'une église de paix. Des tensions, il y en aura toujours, car dans une certaine mesure, le Seigneur veille à ce que l'Église ne soit ni socialement, ni ethniquement homogène. Quand je parle d'ethnie, je parle surtout de famille. Je connais une Église qui est composée de membres de la famille, d'une même famille. Alors, il faudra apprendre à s'ajuster ensemble. C'est la pédagogie du Seigneur. C'est son école, c'est son université, je dirais même que c'est la herse. Qui brise les mottes les plus dures en surface, afin que la terre amoindrie puisse recevoir les semences de la grâce et du pardon. Finalement, Dieu est comme un musicien, il ne laisse pas les cordes de son instrument se relâcher de trop, de peur que la partition musicale de la prière et de la repentance ne soit gâchée et ne devienne une cacophonie. On appelle ça une tension. Alors, frères et sœurs, je vous recommande de vous faire une petite trousse de secours, avec une paire de lunettes, pour voir toutes les qualités des personnes qui nous entourent, parce que notre vue étriquée ne voit que les défauts en premier. Puis il nous faut un crayon pour noter ces qualités, de peur de les oublier. Il nous faut un pansement, pour soigner toutes les petites blessures, les nôtres et celles des autres. Il nous faut un élastique pour être flexible, parce que les gens ne sont pas toujours comme on voudrait qu'ils soient. Et puis il nous faudrait une gomme, pour se rappeler que chacun de nous, et moi en premier, commettons des erreurs, et que nous avons encore l'occasion de les effacer. La communauté de rêve, c'est là où il y a les frères et sœurs, les uns lunettes, les autres crayons, d'autres pansements, d'autres élastiques et d'autres gommes. Aimer d'une affection, d'un amour vrai, pour parler vrai. Rendre artios, réparer les articulations des uns avec les autres et intercéder. Frères et sœurs, notre responsabilité est grande et qui est suffisant pour ces choses. Heureux les doux, heureux ceux qui font œuvre de paix, ils hériteront une Église vivante. Amen.